Vous avez entendu la nouvelle? Ah, quand même, ça fait plaisir pour la France. Deux prix Nobel de la paix d'un seul coup. Les dissidents Bernard-Henri Lévy et Luc Ferry, prix Nobel de la paix de 2010. Maintenant, Sarkozy, là, qu'à bien se tenir, quoi.
Bonjour, nous interrompons le répondeur de la Bastille J'y suis pour un flash spécial. Le prix Nobel 2010 de la paix a été attribué à Abdel, alias Bintou. Le jury d'Oslo insiste sur le fait que cet homme, par son action resplendissante, a démontré les failles du système journalistique français et par là même celui de toutes les démocraties occidentales. En effet, le point a été violemment mis en cause et montre que la démocratie ne peut résister sans un journalisme digne de ce nom.
Kouchner outragé, Kouchner brisé, Kouchner martyrisé, Kouchner humilié, mais Kouchner libéré. Ah, c'est pas la pudeur qui les étouffe, les mecs, hein.
Oui, ben bonjour à toutes et à tous. Nous sommes des personnels et lycéens de lycée agricole de Toulouse-Hauteville et nous sommes en manifestation ce matin, vendredi 8 octobre, devant la direction régionale de l'agriculture pour exiger des postes pour pouvoir fonctionner. Donc voilà, la mobilisation se poursuit. Pour le moment, pas de réponse ou des miettes dont on devrait se satisfaire. Personne n'a marché dans cette affaire et on reste très mobilisé pour obtenir des postes. Hier, des lycéens ont manifesté dans Toulouse contre la réforme des retraites. Donc aujourd'hui, on manifeste pour les services publics. Et mardi, il risque d'y avoir quand même beaucoup de lycéens dans la rue, finalement. Et c'est ce qui inquiète bien le gouvernement. Bye.
Une information dont aucun média n'a parlé ces jours-ci au sujet des retraites. Le patron de Carrefour y part après 3 ans avec une retraite de 500 000 euros par an. Ce qui fait 41 666 euros par mois, 27 millions de centimes. Au bout de 3 ans, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Aucun média a repris cette information. Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre.
Voilà, c'était la manif des travailleurs sociaux à Nantes. À tous les ONG, merci beaucoup, au revoir.
Les travailleurs grévistes sans papiers. Nous occupons donc le musée de l'immigration. Alors venez les encourager, les aider, on va réorganiser comme à la Bastille. Et on va faire mieux que la Bastille parce qu'on ne lâchera pas tant que les ministères ne respectent pas leurs engagements. Et puis eh ben, venez nombreux, les encourager, ils ont toujours besoin d'eau, de café, de thé, de choses à manger, de... Voilà, ça commence au meeting et vous soyez venez. Au revoir.
À Grenoble, la lutte pour et avec les Roms continue. Demain, samedi 9 octobre, à partir de 17h, à la chaufferie rue Léon Jouot, un grand concert de soutien à prix libre est organisé à l'appel du collectif Solidarité Roms. Des musiciens roms venus des différents camps de l'agglomération seront présents aux côtés de groupes de la scène locale. Venez nombreux nous rejoindre dans ce moment d'échange et de lutte.
Salut tout le monde, une Chilienne de France qui voulait dire merci pour cette balade dans nos terres lointaines là-bas au bout du monde. Et je voulais dire merci aussi au peuple de France qui, malgré tous les appels alarmistes à la télé comme quoi de méchants islamistes voudraient mettre des bombes, notamment lors de rassemblements de masse, je crois que le peuple de France en tape maintenant. Je crois que le peuple de France a atteint le seuil du sentiment d'insécurité dont on nous bassine depuis tellement longtemps. Et comme disait la caissière de ma supérette dans mon quartier, une catastrophe de plus, une de moins, au point où on en est, on peut y aller. Maritiweu.
Jamais les oreilles loin du front, grâce à vos messages et vos renseignements généreux dans la boîte vocale de la Basse, j'y suis, chers AMG. Merci aux amis chiliens et aux amis des Chiliens, aux amis du Chili pour leur message. On continue lundi la balade au Chili et on ira voir les mineurs ou ne pas voir les mineurs de San José. Vous savez qu'il y a actuellement 600 à 700 journalistes qui attendent la sortie des mineurs. Et on pense qu'au moment M, ils seront 1000. On pense qu'il y aura 1000 journalistes pour raconter cette histoire. Ils sont en train de se creuser la tête, tous comme des malades, pour savoir quoi inventer de nouveau. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ce que tout le monde sait? Mais voilà, c'est un journalistan. Il faudrait faire l'histoire des journalistans. Ça, ce serait passionnant. Ça pourrait être une bonne idée, tiens, pour le monde diplomatique avec lequel nous nous retrouvons ce mois-ci, ce mois d'octobre. L'équipe du monde diplomatique ce mois-ci, c'est Martine Bullard, Alain Gray, Gilles Balbastre, Thomas Deltombe, Pierre Souchon et Renaud Lambert. Et tout ça, c'est à la Java. Chaque mois, désormais, vous le savez, on enregistre cette émission à la Java, en public et en musique. Et la musique, ce mois-ci, c'est Fantasio et Benjamin. Vous allez voir le Benjamin Collin, formidable musicien. Voilà. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Und singen wir dann die Süßkirschenzeit. Frau Nachtigall singt, die Spottdrossel lacht. Die Feier wird fröhlich sein. Die Schönen, sie werden so schön verdreht. Den Liebenden steht der Sonnengott bei. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Bonjour les amis de la Résistance. En ce moment, il y a une exposition à Strasbourg sur la bibliothèque qui a brûlé à Strasbourg en 1870. Et on a trouvé des notes chez Louise Michel qui a dit « Allons-y, prenons des armes, allons secourir Strasbourg ou mourir avec elle ». Et tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Ce soir à Strasbourg, à la bibliothèque, à la médiathèque Malraux, à 19h, au milieu de l'exposition. Et ça s'appelle Strasbourg, en charpie et en feu, chansons patriotiques, revanchards, nostalgiques et autres répertoires en langue allemande pour l'Alsace, chant de guerre, refus de soumission autour de la commune parisienne, und so wieder. Donc rendez-vous ce soir, les amis de la Résistance. Au revoir et merci pour cette émission géniale. C'était Liselotte de Strasbourg. Au revoir. Wouhou !
Salut, c'est Daniel Mermès, c'est là-bas si j'y suis avec l'équipe du Monde Diplomatique autour du numéro du mois d'octobre. Voilà, on va commencer avec une phrase de Victor Hugo. Ça va placer tout de suite la hauteur de vue et de pensée de l'heure que nous allons passer ensemble. Et ça plaira sans doute à la direction de France Inter. Malheur à qui resterait impartial devant les plaies saignantes de la liberté. C'est de Victor Hugo, et c'est une citation dans un livre que publie Alain Gresh, et cette phrase vient illustrer un chapitre qui s'intitule « Où l'on constate que Bernard-Henri Lévy n'est pas Victor Hugo ». Voilà. Voilà, c'est pour détendre un petit peu l'atmosphère. Alain Gresh nous parlera du papier qu'il publie ce mois-ci dans le Diplo sur Israël et Palestine. On a avec nous Martine Bullard, on a Renaud Lambert, Pierre Souchon qui nous parlera de l'Ardèche, Thomas Deltombe qui nous parlera d'un Dreyfus ouvrier, Gilles Balbas nous parlera de l'éducation. Voilà un peu les sujets dont nous allons causer aujourd'hui. On va commencer par l'édito de Martine Bullard qui s'intéresse à la faim dans le monde, et qui nous apprend que la faim dans le monde était en régression jusqu'en 2008 et c'est reparti à la hausse. Martine Bullard, pourquoi ?
En raison de la crise de 2008 et de 2009, avec une multiplication des suppressions d'emplois, hein, naturellement, avec une régression des aides publiques, notamment des aides publiques aux paysans dans une grande partie des pays émergents ou des pays en voie de développement. Et enfin, c'est reparti à la hausse parce qu'il y a une hausse qui, elle aussi, est repartie en flèche, qui est une hausse de la spéculation. On a actuellement, c'est le président de la Banque mondiale qui fait ce constat, qui explique qu'actuellement, il y a à peu près 1 milliard de personnes qui, chaque soir, vont se coucher le ventre vide. On ne peut pas trouver pire constat d'horreur de ce qu'a été la mondialisation ces 15 ou 20 dernières années. Bien entendu, il y a une partie de la population qui est sortie de la pauvreté, notamment dans les années 90-2000, mais 1 milliard de personnes qui ne peuvent pas manger à leur faim, c'est un constat absolument terrible qui ne pousse d'ailleurs pas le président de la Banque mondiale à faire son autocritique, loin s'en faut. Alors, là, on a assisté depuis la mi-août à une remontée très forte des prix des produits alimentaires qui a plongé dans la faim, on estime, entre 5 ou 6 millions de personnes supplémentaires en raison d'une montée de la spéculation. Pour qu'il y ait une telle flambée des prix, en vérité, il faut qu'il y ait trois éléments qui soient réunis. Premier élément qui doit être réuni, c'est qu'il faut qu'il y ait une demande mondiale assez forte. Or, dans le domaine alimentaire, il y a une demande mondiale plus forte parce qu'une partie des pays émergents mangent mieux, mangent beaucoup plus de viande et donc ont besoin de maïs, de céréales pour nourrir le bétail. Bref, il y a une demande plus forte. Premier élément. Ensuite, la demande est d'autant plus forte qu'il y a eu des inondations, des intempéries assez fortes un peu partout dans le monde, inondations au Bangladesh, inondations au Pakistan, inondations en Inde. Il y a eu de la sécheresse, au contraire, au Canada, des incendies en Russie. Ces éléments font que l'offre de céréales est un peu moins forte au moment où la demande est plus grande. Deuxième élément, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent disponible pour pouvoir spéculer précisément. Troisièmement, je viendrai tout à l'heure, il faut qu'il y ait un endroit où on peut spéculer. L'argent disponible, c'est assez simple, au nom de la crise, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, et notamment dans cette émission, surtout dans cette émission, ailleurs c'est un peu plus compliqué, mais au nom de la crise, les banques centrales ont décidé de donner beaucoup de liquidités aux banques, avec l'idée, ces banques, elles sont en difficulté, il leur faut de l'argent pour se remettre à flot, premièrement. Deuxièmement, il faut pousser l'économie vers la croissance et donc il faut que les banques aient de l'argent pour prêter à l'économie. On connaît le refrain, on l'entend assez régulièrement. Lesquelles banques, évidemment, ne vont pas vers l'économie réelle où les taux de rentabilité sont faibles. La bonne gestion, quand on est une banque, c'est d'aller là où l'argent rapporte beaucoup. Et là où l'argent rapporte beaucoup, ce sont sur les marchés spéculatifs. Et il se trouve que depuis 2000, le marché agricole, le marché des céréales, a été déréglementé complètement par les États-Unis d'abord, puis par le reste du monde ensuite, qui fait qu'il y a un endroit où, après les subprimes, eh ben, on peut se reporter sur les matières premières agricoles. Depuis, entre 2003 et 2008, les transactions sur ces marchés à terme, ces marchés dérivés agricoles, ont été multipliées par plus de 1900%. Et naturellement, ça pousse au prix. On échange des marchés à terme, c'est une sorte de financiarisation, on échange des marchés à terme sans avoir, bien sûr, les grains, sans avoir les récoltes directement. On spécule, on financiarise ce marché agricole. Et au bout du compte, on a vu les prix, notamment depuis le début de l'année, augmenter très, très, très fortement de 30, 40, 50%. Il y a un dernier exemple que je cite d'ailleurs dans l'éditorial, le dernier exemple en date, c'est hélas pas le dernier exemple, qui est celui du fonds spéculatif londonien qui a acheté à peu près l'équivalent des réserves européennes de cacao. C'est donc sans l'avoir, évidemment. Il s'est couvert à terme, il a acheté une grande partie de cette réserve, puis il a raréfié le marché et les prix ont augmenté de 30% dans les 8 ou 15 jours qui viennent. Mais qui veut dire, naturellement, les paysans n'en voient pas une goutte. En revanche, les consommateurs, eux, in fine, paient des prix de plus en plus élevés. Et eux, naturellement, les spéculateurs empochent évidemment d'énormes profits. Ce mécanisme-là dont je parle, ce n'est pas simplement les économistes un peu alternatifs qui les mettent en évidence, même s'ils les mettent en évidence depuis un bout de temps. C'est aussi le constat du rapporteur de l'ONU sur l'alimentation qui vient de dire ce système de spéculation à outrance a fait que 13 à 14 millions de personnes en 2008 ont été plongées dans la faim la plus totale parce qu'ils ne pouvaient plus acheter les produits de base. Donc, cette situation est tellement grave que désormais, vous ne pouvez pas rencontrer un seul dirigeant qui ne vous dise pas qu'il faut réguler les marchés. On a eu.
Mais Nicolas Sarkozy s'y emploie.
La Commission européenne vient de dire c'est pas possible ce marché des produits agricoles, on ne peut pas continuer comme ça, il faut absolument les réguler. Enfin, ils le font parce qu'ils ont peur aux émeutes de la faim. comme en 2008, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu plusieurs dizaines de morts, il y a des révoltes de la faim dans 47 pays. Ça a été une gigantesque révolte contre les difficultés à se nourrir. Donc ils en ont quand même un peu peur. Donc ils se disent, il faut qu'on arrive à réguler un tout petit peu, entre guillemets. Puis ils ont peur à l'éclatement de la bulle. Hein, on est passé des subprimes, maintenant il y a le marché agricole et des matières premières. Ce n'est pas sans poser de problème.
Merci. Les musiciens maintenant, je rappelle qu'on est en direct à la Java, à Paris, avec nos musiciens. Aujourd'hui, c'est Benjamin Collin et Fantasio.
Ho voglio un problema particolare, non voglio questo problema, vorrei un problema che non capisco, vorrei un nuovo problema, un problema che si mette in faccia, un problema che puoi mettere direttamente nella voce di qualcuno, un problema che non si sente, non si sentono questi problemi, sono problemi di altri, non sono problemi miei. Je ne vais pas les retrouver, je ne vais pas les retrouver en train d'essayer les trop. C'était trop, c'était trop changé, c'était Paris qui est en dessine de c'est le fond, et c'est le dessine de non, de river. And he was this kind of real gone low, smiling every time, he was smiling every time, going from Texas directly to Arizona, and he's been just like finding another little way of speaking every time he was moving it. Et non, mais le retrait, c'était pas censé faire le retrait, c'était pas rétréci, c'était pas censé rétrécir ça, c'était censé grossir ça, ça n'a pas grossi ça, c'était sous, c'était sans sous, c'était rancé sous. Arrivi direttamente nel culo di Mussolini, senza passare con gli altri. Non posso passare nel culo di Mussolini, sono capace di sentirlo. Vorrei essere capace di sentire qualcosa, non sento più niente, je ne ressens plus rien. Que j'essaye de sortir de ce corps, je me retrouve à moitié étouffé. Oh, chaque fois que j'essaye de jouer dehors avec la mort, j'entends qu'il est l'heure de rentrer. Every time I try with a lover, all the time, time to brew the brain. I've got something just sexier than you. Oh, every time I try, and then my sweet little motherfucking bitch gone junkies all around. Without you. Sento come qualcuno che non ha mai vissuto, che non ha mai sentito qualcosa. Mi sento come completamente anestesiato. Mi sento come la metà di quello che avevi dici. Je me sens comme la moitié de ce que tu avais prévu en 84. Je me sens comme la moitié des instincts que tu avais eu en 83. Mais les instincts sont l'action. Sont l'action.
Oh. Magnifique, merci Benjamin Collin et Fantasio. Il n'y a plus que deux, hein. Tout ça c'est fait par deux. Merci, merci infiniment. Alors maintenant, la Palestine et Israël. Bientôt, ce ne sera qu'un seul État. Voilà, c'est ce qu'affirme en tous les cas Alain Grech, qui à mon avis en rêve depuis longtemps. Et voilà, ça va se faire incessamment sous peu que enfin on va trouver la solution. Vous savez, l'investissement du président américain depuis le début septembre, à nouveau, la paix est en route et nous allons vers des nouvelles heureuses et un avenir radieux. Alain Grech.
Oui, en fait, on peut tout à fait constater que les négociations, avant même d'avoir commencé, sont déjà dans l'impasse et qu'elles ont beaucoup de mal à avancer, que la colonisation se poursuit, qu'on ne sait même pas si les Israéliens et les Palestiniens vont pouvoir se rencontrer. Mais au-delà de ça, ce qui apparaît de plus en plus à un certain nombre de responsables, c'est que l'idée même qui depuis 20 ans structure l'action de la communauté internationale, c'est-à-dire deux États côte à côte pour deux peuples, est en train de devenir irréalisable sur le terrain, justement à cause de la colonisation, justement à cause du réseau de routes, de camps qui entourent ces colonies. Les colonies en Cisjordanie contrôlent aujourd'hui environ 45% du territoire de la Cisjordanie. Donc ça rend les choses difficiles. Et le plus étonnant, et je commence là-dessus dans l'article, c'est qu'on a vu un certain nombre de responsables israéliens, et pas des moindres, le président du Parlement, Moshe Arens, qui est l'ancien ministre de la Défense, et une personnalité à la fois un faucon, une personnalité assez influente sur la scène israélienne, dire finalement on n'a plus d'autre solution que de créer un seul État. Alors, évidemment, leur argumentation est un peu compliquée parce qu'ils veulent d'un côté, ils disent nous voulons un seul État parce qu'ils veulent annexer la Cisjordanie, mais en même temps, comme il y a des Palestiniens en Cisjordanie qui n'y peuvent pas grand-chose, ils ne peuvent pas dire, parce que ce sont du point de vue politique, en tous les cas des libéraux, de dire on ne leur donne pas de droits politiques. Donc il y a cette idée, on va annexer l'ensemble de la Cisjordanie, créer un seul État, mais en même temps on va donner la citoyenneté aux Palestiniens qui pourront voter. Alors en même temps ils disent mais surtout nous voulons un État juif. Alors comment est-ce qu'il va pouvoir y avoir un État juif dans lequel 40 ou peut-être demain 50% de la population sera une population palestinienne? Ils ne répondent pas à cette question. Mais ce qui est intéressant...
Qui est pourtant la question.
Oui.
État juif et démocratique ou État juif tout court, voilà. Pas trop démocratique.
Tout à fait.
Mais plus ou moins démocratique.
En même temps, c'est le reflet des contradictions qu'il y a en Israël. C'est-à-dire, autant il y a une droite radicale qui est prête à expulser les Palestiniens ou à instaurer un système d'apartheid, autant pour un certain nombre de dirigeants, c'est difficile, justement, eux qui se réclament de la démocratie, de dire nous allons annexer la Cisjordanie, mais pas donner le droit de vote aux Palestiniens. Donc, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la proposition en soi que le fait qu'elle reflète réellement la crise dans laquelle est ce processus de paix sur lequel on travaille maintenant depuis 1993 au moins et qu'on ne voit pas aboutir malgré le fait qu'il y a une administration américaine qui aimerait trouver une solution.
Mais alors ça voudrait dire que le vieux rêve de l'État binational, par exemple le rêve d'Edward Saïd, se réaliserait ou serait repris, non mais se réaliserait peut-être pas, mais serait repris d'une façon tout à fait inattendue par la droite et les faucons israéliens.
Mais je rappelle dans un petit encadré dans le journal l'histoire de cette idée binationale. L'idée binationale, la première fois qu'elle a été avancée, c'était par le mouvement sioniste. C'est-à-dire, il y avait dans les années 20-30 des organisations sionistes d'extrême gauche, se réclamant du marxisme, très radical à l'époque dans le discours, qui disaient on ne peut pas simplement créer un État juif parce qu'il y a les Palestiniens et il faut créer un front commun avec les Palestiniens. Et donc, ils ont avancé l'idée d'un État binational. Bon, c'était l'idée, nous allons amener des immigrants juifs et nous allons vivre côte à côte avec les Palestiniens. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'interlocuteur palestinien pour une telle idée parce que les Palestiniens ne pouvaient pas accepter que leur pays soit la patrie de juifs qui venaient d'Europe centrale, de Russie ou d'ailleurs. Donc, après, cette idée a disparu. Et puis, elle est revenue, curieusement, à la fin des années 60, par le mouvement Fatah et Yasser Arafat, qui, pour la première fois, a accepté l'idée que dans la Palestine future, alors à l'époque, ils voulaient détruire Israël et créer un seul État palestinien, mais jusqu'à présent, le discours sur qu'allaient devenir les Juifs installés en Palestine était ambigu, disons, pour le moins. Là, pour la première fois, Arafat dit non, nous allons vivre ensemble, Juifs, musulmans, chrétiens, et donc cette idée d'un État dans lequel tout le monde va coexister est avancée par les Palestiniens. Mais évidemment, cette fois-ci, refusée par les Israéliens. Elle est refusée par la communauté internationale qui est plutôt sur l'idée de la reconnaissance de l'État d'Israël. Et donc, finalement, elle va s'estomper. Mais elle contient un élément très important, je veux dire, pour comprendre la situation aujourd'hui, c'est que le Fatah et l'OLP acceptent les faits accomplis qui se sont produits, c'est-à-dire la présence dans la terre de Palestine, Israël, de plusieurs millions de Juifs israéliens qui ne peuvent pas rentrer chez eux, entre guillemets. Donc ça, c'est quand même un changement très important dans le point de vue israélien. Et ça crée une situation aujourd'hui qui est une situation complexe, parce que quelle que soit la manière dont on imagine l'avenir, il y a sur les territoires, encore une fois, historiques de la Palestine, c'est-à-dire la Palestine telle qu'elle était avant la création d'Israël, il y a en gros 6 millions de Juifs et 6 millions d'Arabes. Et donc, de toute façon, aucune solution ne pourra être imposée à une des parties contre l'autre.
Interprétation musicale de ce qui vient d'être dit, ou pas du tout, Benjamin Collin et Fantasio. Maintenant, on se tourne vers l'Irlande avec Renaud Lambert. C'est dommage parce que là, j'ai tout le texte de Bernard-Henri Lévy. À Gaza, quand même. Bon, on ne parle plus de ça. On va parler du miracle irlandais, de feu le miracle irlandais, Renaud Lambert, du monde diplomatique.
Daniel Mermier, vous avez remarqué que nous, ouais, les Français, on nous reproche souvent d'être un peu archaïques, d'être des cancres, en somme. Et bon, les cancres sont des cancres avant tout parce qu'il y a de bons élèves. Le problème qui se pose, c'est quand les bons élèves deviennent à leur tour des cancres. Et c'est un petit peu l'histoire de l'Irlande. L'Irlande, un pays qui a été d'abord un modèle pour le libéralisme triomphant, et puis un peu plus tard, un modèle de résolution des dégâts engendrés par le libéralisme. Cette solution, c'était l'austérité. Mais cette austérité en Irlande, elle était triomphante. Pourquoi ? Parce qu'elle se faisait dans un contexte de paix sociale. Alors, il faut peut-être commencer par rappeler qu'en ce moment, l'Irlande va mal. Le pays est un des premiers pays à être rentré en récession au moment de la crise financière de 2008. Et à l'heure actuelle, c'est un des derniers pays à voir la sortie. Pour vous donner une idée, au moment où on a voté l'Europe, on a décidé de mettre en place des critères de Maastricht. L'idée était que les déficits budgétaires ne dépassent pas 3% du PIB. L'Irlande va atteindre 20% du PIB. Et alors, au monde diplomatique, on s'est souvenu d'une époque où on nous disait « monts et merveilles de l'Irlandais ». Comme on est un peu moqueur, je vais vous rappeler certaines des choses qu'on nous a dites. En 2004, Jean-Pierre Raffarin, qui était Premier ministre, expliquait, je le cite, « Je ne vois que des atouts au modèle irlandais ». Il avait même chaussé son plus bel accent anglais pour dire que l'Irlande était une véritable success story. George Osborne, qui est aujourd'hui ministre des Finances au Royaume-Uni, en 2005, proposait à ses compatriotes, je cite, « d'observer et d'apprendre de ce qui se passe de l'autre côté de la mer d'Irlande ». En France, la presse était quasiment unanime. Le Figaro, en 1997, voyait poindre un miracle irlandais. L'Express, en 2001, pensait avoir identifié un miracle irlandais. Et Libération faisait preuve de créativité en 1997 en titrant « Le miracle irlandais ». Pour voir un petit peu de quelle nature était ce miracle irlandais, il faut observer que, effectivement, l'Irlande a connu un essor économique assez considérable au début des années 90, entre 1990 et 2005. Cette croissance économique a eu lieu à un moment où les dirigeants irlandais mettaient en œuvre des mesures de nature radicalement libérale. Privatisation, un système de modération salariale. Rapidement, les salaires irlandais étaient bien inférieurs à ceux que l'on proposait aux salariés français, par exemple. Baisse d'impôts aussi considérable qu'il est devenu intéressant pour les entreprises d'aller déclarer leurs activités en Irlande, même si elles n'étaient pas réellement réalisées en Irlande. Les niches fiscales irlandaises feraient passer Nicolas Sarkozy et son gouvernement pour des bolcheviques. Et les créateurs de richesses étaient à ce point encensés que certains ont fait le déménagement. Des Français, par exemple, sont partis. Et France 2, en 2005, je crois, y consacrait un reportage dans lequel on voyait un créateur de richesses français constater qu'en France, il y a trop de charges. Et la mine un peu rêveuse, David Pujadas, lui, parlait de l'Irlande, je le cite, « avec des impôts très bas, un droit social très souple ». Alors, on comprend qu'il soit de la responsabilité des médias de nous raconter un petit peu ce qui se passe. Mais on pourrait faire une autre analyse de la croissance irlandaise. En fait, l'Irlande était un pays très en retard par rapport aux autres pays européens jusqu'à la période un peu glorieuse que je viens de vous décrire. Autre point important, l'Irlande était un pays où les femmes étaient encore, avaient encore des conditions de vie très peu émancipées. Or, en 1992, la pilule contraceptive devient légale. Les femmes ont moins d'enfants et entrent sur le marché du travail. À la même époque, l'appareil productif irlandais se modernise. Un appareil productif moderne avec beaucoup de gens pour le faire fonctionner donne une économie capable de rattraper son retard. La nature libérale des mesures mises en œuvre à l'époque n'est pas la cause, mais quelque chose qui est venu se plaquer par-dessus le rattrapage économique. Il a permis une croissance particulièrement sensible des inégalités et puis une chute la plus rapide d'Europe de la part des salaires dans le PIB. La part des salaires dans le PIB, c'est la part de la richesse produite par la nation qui va au salaire par opposition au profit. Mais tout ça a enthousiasmé bon nombre d'éditorialistes, comme Thomas Friedman, un éditorialiste du New York Times, qui offrait à la France et à l'Allemagne une alternative en 2005, je le cite, « se transformer en Irlande ou se transformer en musée ». À la suite de cela, eh bien, il y a la crise économique dont j'ai décrit certaines des conséquences sur l'Irlande. Et on aurait pu imaginer que bon, le modèle irlandais de libéralisme triomphant, comme je l'ai appelé tout à l'heure, serait passé à la postérité une fois le système libéral mis à mal. Or, de la même façon que le libéralisme...
René de Cessan,
en 2009, pour proposer ses propres solutions à la crise qu'il avait engendrée, le modèle irlandais, René de Cessan, et propose la solution, l'austérité. Alors, à l'époque, vous vous souvenez peut-être, les Grecs sont dans la rue, ils refusent le programme d'austérité qu'on leur propose. Ils vont manifester, et au même moment, les Irlandais, ils le font. Baisse des salaires de jusqu'à 20% dans la fonction publique, baisse des allocations sociales, tout un tas de programmes d'aide à l'enfance sont supprimés. Et en 2010, le quotidien espagnol El País fait le constat que l'expression « à l'irlandaise » chez les économistes est devenue synonyme de traitement de choc à infliger au secteur public afin de faire face à la dégradation des comptes publics. Malheureusement, pour les Irlandais, qui ont fait beaucoup d'efforts, les résultats ne sont pas à l'aune des attentes de tous ces thuriféraires de l'austérité libérale. Parmi les journaux qui avaient célébré la sévérité irlandaise, il y avait le Wall Street Journal. Et très récemment, en septembre 2010, le Wall Street Journal était un petit peu gêné. Je le cite. « Jusqu'à récemment, on pensait que l'Irlande parviendrait à régler ses problèmes financiers grâce à un programme agressif de coupes budgétaires. Mais, alors que les problèmes de l'Irlande persistent, son crédit auprès des investisseurs est affaibli. » Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le problème pour les investisseurs, c'est que l'Irlande a à ce point tranché dans son économie qu'elle ne produit plus assez pour que les investisseurs soient sûrs que l'Irlande sera capable de les rembourser. C'est donc l'austérité, à son tour, qui commence à angoisser les investisseurs.
Ouais, ce que tu indiques aussi dans le papier, c'est que les Irlandais reprennent leur immigration.
Vous savez que la tradition irlandaise, c'est l'exil, à cause des conditions de vie terribles qu'on a pu avoir là-bas pendant des années. Eh bien, à partir de 1996, je crois, l'Irlande a commencé à recevoir des gens pour venir travailler. Et là, dans les années qui viennent, eh bien, les gens commencent à repartir. Les gens s'en vont. C'est probablement une des raisons pour lesquelles on est si peu dans la rue à Dublin en ce moment.
OK. Fantasio, au boulot. Benjamin Collin.
Je n'en peux plus, Claude, d'être d'accord avec toi. Ce qui m'excite maintenant, c'est d'extrémiser nos désaccords, nos raccords. Je n'en peux plus d'être d'accord avec toi, Claude. Ça me détruit, ça m'a détruit déjà. Je n'ai rien dit, j'ai tout gardé à l'intérieur. J'aurais voulu te dire, je n'ai pas pu, je n'ai pas les armes comme toi pour parler. Je n'ai pas eu les mots pour maudire, je n'ai pas eu tes mots pour me maudire, je n'ai pas eu ton... Non, ça m'excite de n'être pas d'accord avec toi, Claude. Je voudrais continuer à ne pas être d'accord du tout, et je pense que là, on arrivera à un désaccord ni nickel, ni chrome, ni nickel, ni chrome. Et ça, c'est qui m'importe, Claude, c'est de me transformer seconde après seconde et de farti capire que non, non quiero ser el coco rico. No quiero ser el coco rico, quiero ser el coco pobre, sí. Ni el paparano, ni la mamarana, ni esa mamarana que estuvo como algunos años pidiéndome tantas cosas que no pude nunca darme cuenta de la mitad de lo que había pensado en Madrid en 1984 y te quedases ahí, bueno, con mamarrano, con paparana, con todo lo que quiere, bueno, me quedé allí sentado, prostrado, como se dice en francés, prostré, prostré, revenons, réenchanté, les premières des provinces, reparti tout d'un coup, comme la passe, la passe, revenant tremblotant vers les premiers bijoux, repartant tout d'un coup, en faisant en sorte que les enfants faire valoir des adultes, les enfants faire valoir des adultes de gauche comme d'extrême gauche, comme de l'UMP, les enfants bannis, domestiqués par les grands adultes européens, se retrouvent d'un coup fiers étendant leurs poings vers de nouvelles sensations qui reviennent en spirale, refaire que les grands adultes ne tournent plus en rond, mais remettent au final des voix ankylosées vers la première virgule qui viendra transformer. Me han agarrado preso, siendo un gallo tan jugado. Voy a dar, voy a dar un pormenor de lo que a mí me ha pasado, que me han agarrado preso, siendo un gallo tan jugado. Que me han agarrado preso, siendo un gallo tan jugado. Yo me fui para Agua Prieta a ver quién me conocía. Yo me fui para Agua Prieta a ver quién me conocía. Y a las 11 de la noche
Souchon a donné dans le diplôme de ce mois-ci un papier formidable, je trouve, sur l'Ardèche, sur un personnage dans l'Ardèche qui s'appelle Paul.
C'est ça.
Et c'est une vallée précise ?
Il y a plusieurs vallées. Mmh. J'ai quand même fait une bonne trentaine de kilomètres, je pense.
Quand même ?
Dans le sud d'Ardèche.
Au frais du diplôme.
Absolument. Quand on parle de l'Ardèche, on en a aujourd'hui une image assez folklorique, une image sympathique, où dans les années 70, il y avait des éleveurs de chèvres qui sont installés. C'est un département sauvage, le seul département de France où il n'y a pas de voie ferrée. Un peu un département, une réserve d'Indiens, où il fait bon faire du canoë-kayak dans les gorges. Alors, tout ça, c'est vrai. Il ne faut pas nier l'évidence. L'Ardèche est effectivement devenue une réserve d'Indiens. Mais c'est parce que le libéralisme a démoli tout le reste. Et quand le libéralisme a démoli tout le reste, il ne reste que le tourisme. Alors, tout le reste, ça a été quoi ? Ça a été d'abord l'agriculture. Donc j'ai rencontré Paul, comme vous le disiez. Paul a 71 ans et c'est un des rares, quasiment un des seuls, à être resté au pays. Et lorsque je l'ai rencontré, c'était quasiment tragique, puisqu'il était en train de passer à la tronçonneuse une centaine de cerisiers qu'il avait plantés il y avait une vingtaine d'années de ça. Et donc je lui ai demandé où est votre exploitation, montrez-moi, etc. Et donc, il m'a montré les broussailles. Autour de lui, il m'a montré des pins, des chênes et des genêts. Il m'a dit, voilà ce qui reste. Il ne reste plus rien. Pourquoi il ne reste plus rien ? D'une part, parce que ses enfants n'ont pas voulu reprendre, alors qu'il en a eu deux. Et puis lui, il identifie un responsable. Il dit, c'est le traité de Rome qui nous a tués. Alors, le traité de Rome, en 57, il stipule que les barrières douanières doivent tomber dans les 6 États membres de la communauté économique européenne. Donc on met en concurrence les agriculteurs européens. Et pour en rajouter une couche, sur le plan national, une loi fixe pour objectif d'abaisser le nombre de paysans de plus de 2 millions à 1 million. Donc c'est réussi. En 15 ans, plus de 600 000 agriculteurs se retirent. Et donc il est évident que l'agriculture qui est visée, c'est l'agriculture qui est la moins productiviste et que donc la petite agriculture des Cévennes meurt. Dans le village de Paul, on passe de 80 fermes en 1945 à la Libération à 3 qui subsistent et qui survivent aujourd'hui. Donc je disais tout le reste. Avant les ravages du libéralisme, c'était quoi ? C'était l'agriculture, mais c'était aussi l'industrie, le secteur secondaire. Dans les années 60, il y avait 240 usines textiles, des usines de moulinage en Ardèche. Donc c'est plus de la moitié des entreprises de ce type en France. Il en reste aujourd'hui quasiment rien. Donc on a fabriqué véritablement un désert industriel. Je me suis tourné vers Jean Laurent. Jean Laurent, c'est un des rares, lui aussi, à avoir fait toute sa carrière dans le textile. Son usine, ça a été une des dernières à fermer, elle a fermé en 2007. Il est aujourd'hui président d'une association d'aide à domicile en milieu rural. Et il m'explique que ce sont les personnes âgées qui font vivre le pays. D'ailleurs, la maison de retraite du village, avec une vingtaine de salariés, est devenue le premier employeur de la vallée, alors que sa seule usine à lui comptait plus d'une centaine d'ouvriers. Donc voilà le type d'emploi qui reste aux Ardéchois aujourd'hui. Donc ce sont des emplois précaires, ce sont des emplois partiels, avec des temps partiels subis. C'est exactement le type d'emploi qu'on trouve dans le tourisme. Le tourisme, qui est devenu dans l'intervalle la principale activité du département. Et donc j'ai rencontré Nicolas. Alors Nicolas, comme un tas d'autres Ardéchois, lui travaille dans un centre de loisirs. Alors il fait tout. Il fait la cuisine, il surveille la piscine, bon, il tond la pelouse, il fait le ménage. Et puis le reste de l'année, il vit avec 900 euros de chômage mensuel. Donc pour arrondir les fins de mois difficiles, alors déjà il ne paye pas de loyer parce qu'il habite avec sa copine dans une maison qui appartient à un cousin, il fait les fins de marché, ses parents ont quelques terrains, quelques châtaigniers, donc des châtaignes qu'il ramasse et qu'il va vendre sur les marchés locaux, et puis il a la chance de manger de temps en temps un morceau de sanglier qu'un copain chasseur lui apporte. Donc,
il faut dire un truc sur les sangliers, ça, il y a un truc très intéressant dans le papier, c'est comment les sangliers se rapprochent.
Paul raconte très bien que dans les années 60, il n'y avait pas de grand gibier dans les Cévennes. Et donc, voyant la broussaille gagner petit à petit, les exploitations abandonnées, etc., il disait, mais si ça se trouve, un jour, on verra des sangliers. Et il dit, aujourd'hui, on y est. Les sangliers sont ici, chez eux. C'est-à-dire que la prolifération du grand gibier est proportionnelle, en réalité, à la déprise agricole.
C'est le touriste et le sanglier.
Exactement. Moi, en conclusion, ce qui m'a apparu, c'est que l'Ardèche, loin d'être folklorique, loin d'être une réserve d'Indiens, c'est à mon avis, peut-être que je force un peu le trait, mais enfin vous me le direz, une sorte d'avant-garde, un futur pour le pays, s'il continue, par ses politiques libérales, à tuer son agriculture et à laisser partir son industrie. Et donc à ce moment-là, il ne restera plus qu'à ramasser les petits contrats et éventuellement les châtaignes.
Merci, mais ce qui se passe là, ça se passe dans beaucoup d'autres régions françaises.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il me semblait intéressant de dire que c'était dans l'endroit qu'on présente comme le plus reculé de France. Bon, bah, même là, le libéralisme a fait des ravages.
Qui dérange personne ? Pourquoi il dérange personne ? Il dérange au moins deux personnes par jour. Au moins. Amen. J'ai vu le diable, c'était un sac plastique bleu. Après avoir allumé ma clope au robinet, puis un poteau télégraphique devenait ma mère en mini-jupe, ma mère morte en mini-jupe, puis une cigarette mal écrasée par un Parisien qui venait du resto indien curry, du resto indien curry que l'homme vitait et avait jeté sa camelle sur le bord de la route. J'ai pris ce mégot pour un verre luisant. J'ai pris ce mégot-là pour un verre luisant. J'ai pris ce micro pour un... J'ai pris ce microphone français pour une sorte de Godemichet allemand.
J'ai eu un jour une entrevue avec l'actuel directeur de France Inter, et je lui suggérais dans les idées d'émission possible l'idée de faire une série sur l'histoire sociale française. Comment est née la sécurité sociale ? Comment sont nées les assurances maladies ? Les grandes luttes sociales ? Enfin, je me suis un peu échauffé comme ça, ça l'a laissé tout à fait un pas vide. Mais, et heureusement, il y a le monde diplomatique, et dans ce numéro d'octobre, il y a un papier tout à fait étonnant de Thomas Deltombe sur Jules Durand. J'avoue que je ne connaissais absolument pas Jules Durand, qui a eu une destinée pourtant tout à fait dramatique, étonnante, et qui, aux yeux de Thomas Deltombe, fut un Dreyfus ouvrier. Thomas.
Alors, c'est pas à mes yeux seulement, ça a été Jules Durand, donc un inconnu, il l'était à l'époque, il l'est toujours aujourd'hui. C'était un ouvrier, un syndicaliste, un charbonnier en réalité, ça explique peut-être pourquoi on ne le connaît pas très bien. Alors un charbonnier, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui travaille sur un port, notamment en l'occurrence sur le port du Havre, et qui charge et décharge le charbon pour les navires. Bon, alors c'était un syndicaliste révolutionnaire hein, de la CGT, la Confédération Générale du Travail. Et les conditions des charbonniers sont dramatiques, les conditions de vie sont dramatiques. Souvent, les charbonniers à cette époque-là n'avaient pas de logement même, n'arrivaient pas à se nourrir. Et leurs conditions de travail étaient dramatiques également, puisqu'ils étaient embauchés à la demi-journée, exploités. Enfin, si vous avez lu Zola, peut-être vous avez une idée des conditions de vie à cette époque. On est en 1910, donc pour les 100 ans de cette affaire Dreyfus ouvrière, j'ai voulu revenir sur cette affaire. Cette affaire commence avec une grève, donc à l'été 1910, où Jules Durand et ses amis lancent un mouvement de grève contre les grandes compagnies maritimes du Havre. Et on est dans un climat local très très échauffé, mais un climat national très échauffé. À cette époque-là, la lutte sociale ressemble fort à une guerre sociale, à une guerre des classes. Il y avait d'ailleurs un journal très populaire à l'époque qui s'appelait La Guerre sociale, où on appelait au lynchage de la bourgeoisie. La CGT elle-même avait un hebdomadaire qui s'appelait La Voix du Peuple, où on appelait à affûter les bistouris, je cite, hein, pour crever le monde bourgeois. Donc voilà un peu l'ambiance dans laquelle.
Heureusement,
on était.
Ces époques sont révolues.
Mais alors, l'affaire donc commence avec cette petite grève qui serait passée inaperçue, parce qu'il y avait en fait des grèves partout hein, à ce moment-là en France. Hein, c'était très, très, très chaud. Sauf que. Début septembre 1910, un homme est mort dans une bagarre sur les quais du Havre, dans la nuit. Et cet homme était un jaune, un briseur de grève, ce qu'on appelait à l'époque un renard. Alors évidemment, les circonstances aidant, ça a assez mal tourné pour Jules Durand, puisque le patronat maritime local, et notamment la Compagnie Générale Transatlantique, la CGT, mais une autre CGT, a instrumentalisé l'affaire pour décrédibiliser le mouvement ouvrier. L'a instrumentalisé au sens fort, c'est-à-dire qu'ils ont payé, entre guillemets, des jaunes, d'autres jaunes, pour témoigner contre Jules Durand, donc le secrétaire de l'Union des charbonniers, pour faire condamner Jules Durand. Donc il y a eu un procès en novembre 1910 à Rouen, et Jules Durand, qui n'était absolument pas du tout au courant de cette mort, de ce jaune qui était mort accidentellement au cours d'une bagarre, bon, a été condamné pour complicité morale à la peine de mort. Alors évidemment, là, cette histoire qui était passée un petit peu inaperçue, qui avait été instrumentalisée, il est vrai, par la presse nationale parisienne, la presse bourgeoise, Le Temps, L'Aurore, Le Capitaliste, j'ai découvert ce journal qui s'appelait Le Capitaliste, assez intéressant, et qui expliquait qu'il y avait un syndicat du crime au Havre et qu'il fallait absolument le châtier très durement. Et effectivement, Jules Durand a été châtié très durement. Alors évidemment, après la condamnation...
Il est exécuté ?
Ah non. Alors justement, là, après la condamnation à mort de Jules Durand, toute la gauche, au sens large, s'est mobilisée pour essayer de sauver sa tête. Et c'est là que c'est intéressant, on a vu vraiment une union de la gauche, à la fois les socialistes qui étaient au Parlement, mais aussi les syndicalistes révolutionnaires de la CGT et puis de l'ensemble. Alors voilà, c'est cette affaire-là que j'ai essayé d'exhumer un peu. Je trouve que ça raconte assez bien les ambiances de bon, ce que c'est que la guerre sociale, et là on le comprend très clairement, avec cette instrumentalisation de la justice, notamment pour faire condamner un effet politique, un syndicaliste. Et puis ce qui m'a intéressé, alors moi j'ai poussé un tout petit peu plus l'investigation sur un sujet qui m'a assez intéressé, c'est les débats que cette affaire a provoqué à gauche. Puisqu'on a eu à une époque, et ça je pense que c'est intéressant pour nous aujourd'hui d'y réfléchir, où on va dire la gauche révolutionnaire ou la gauche insurrectionnelle regarde la République, l'idée même de République, comme une forme d'instrument pour l'écraser. Donc ça, c'est ce qu'on trouve, par exemple, sous la plume de Gustave Hervé, donc, qui s'occupe de ce journal qui s'appelle La Guerre sociale, où lui, il explique que ça sert à rien, on n'a rien à attendre de la République. On n'a rien à attendre de la République. Il faut, il dit, utiliser la loi de Lynch, donc œil pour œil, dent pour dent. Donc, en gros, Jules Durand va être exécuté, mais bon, c'est un soldat qui est mort sur le champ de bataille. Et on a un autre courant, qui est, lui, est davantage incarné par Jean Jaurès, qui va utiliser l'Humanité, le journal de l'Humanité, pour expliquer que non, la République, comme pendant l'affaire Dreyfus, peut rendre la justice, et même pour le prolétariat. Et donc, il va utiliser le cas Durand pour essayer de réhabiliter l'idée républicaine aux yeux des ouvriers français. Et donc, la conclusion que je tire de ce débat à l'intérieur de la gauche, bon, c'est que, un, effectivement, la République ne va pas exécuter Durand, pour répondre à votre question, mais va également, après un certain nombre d'années, le réhabiliter. Seule chose, donc on pourrait dire, bon, la thèse de Jaurès, effectivement, la République peut donner justice à un ouvrier. Seul problème, c'est qu'au cours de son incarcération, dans les premières semaines même de son incarcération, Jules Durand est devenu fou. Donc la question qui se pose, c'est dans quelle mesure on peut rendre justice à quelqu'un qui est devenu fou à cause d'une injustice.
C'est incroyable. C'est un magnifique scénario. C'est un film magnifique.
C'est une histoire qui a fait un peu de bruit à la fin des années 50, qui est revenue en fait sur la scène à la fin des années 50, au début des années 60. Alors, je n'étais pas né moi-même, mais l'avocat de Jules Durand était René Coty. René Coty, qui était avocat à Wavre.
Le très regretté René Coty.
Et qui était président de la République sous la 4e République. Donc, on a reparlé un petit peu de ça à cette occasion. Et puis là, bon, c'est le centenaire de cette affaire. Donc, il y a quelques publications intéressantes à feuilleter, je pense.
Voilà, merci Thomas. C'est Paul Robson qui chantait ça autrefois, Sixteen Tones. Merci Fantasio, merci Benjamin Collin et bravo. Gilles Balbastre, l'éducation nationale vous préoccupe et on comprend pourquoi. 16 000 suppressions de postes depuis le début de cette année, 34 000 suppressions de postes en 3 ans. Et alors, on va apprendre... pour ceux qui n'ont pas d'enfants à l'école, qui ne savent pas actuellement comment ça se passe, ce qu'est le RAR, le réseau ambition-réussite. Ambition-réussite, voilà deux mots qui vous ressemblent pas mal, cher Gilles Balbastre.
Oui, donc vous allez peut-être apprendre ce que sont les RAR. Par rapport aux suppressions de postes, je voudrais annoncer des 16 000 suppressions de postes d'enseignants de nouveau annoncées aujourd'hui avec le budget. Donc ça continue. Ça continue. J'ai appris aussi un certain nombre de choses en faisant cet article, ce qui est toujours intéressant au moins, c'est que je n'avais pas mesuré à quel point le statut d'enseignant était un statut particulier. L'enseignant n'a pas de lien de subordination, ce qui est important par rapport au salariat, n'a pas de lien de subordination avec son chef d'établissement, parce que ce n'est pas lui qui le recrute. Et ça, c'est important. Le seul supérieur hiérarchique d'un enseignant est l'inspecteur pédagogique. Donc, dans un établissement, ça a influencé forcément et fortement les relations entre les personnes. Le deuxième point, c'est qu'il n'y avait pas d'hiérarchie dans une salle de prof. Et ce statut est hérité de l'après-guerre, de la fonction publique, et avait comme principe de poser la laïcité et l'indépendance des enseignants par rapport à tout pouvoir, pouvoir marchand, pouvoir religieux et pouvoir politique. C'était pas rien. Une des entreprises de marchandisation et de déstabilisation du service public d'éducation par les gouvernements depuis une dizaine d'années consiste à décortiquer ce statut et à l'exploser. En 2006, et vous allez voir comment ça, les choses se ressemblent suite aux événements qu'il y a eu dans les banlieues, il y a eu toute une réforme dans ce qu'on appelle les zones d'éducation prioritaire. Il y avait à peu près un millier d'établissements, donc d'une réforme qui a posé le statut RAR, le réseau ambition réussite, qui est un statut qui a tenté d'entourer le statut d'enseignant pour pouvoir le mettre à mal. Alors, pour la première fois, on a commencé à recruter des professeurs référents, des super profs, qui se sont retrouvés à être embauchés par un mouvement autre que le mouvement national de mutation. Les enseignants sont mutés, hein, pour ceux qui ne savent pas, par un certain nombre de critères administratifs, qui sont un nombre de points, une situation familiale, et non pas par « je me vends à un chef d'établissement, je dois prouver que je ne suis pas syndicaliste ou que je râle pas trop, que j'adore le porc, etc. » Voilà, on peut dire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut, et grosso modo, ils ne vous recrutent pas là-dessus. Ça s'est passé différemment avec le réseau Ambition Réussite. Et là, ces super profs ont été des recrutements à profil, hein, avec des postes bien précis et avec des recrutements, avec des mots qui commencent à devenir des mots, des fiches de recrutement qui ressemblent étrangement à des fiches qu'on retrouve dans le salariat classique. Hein, dynamique et réactif, disponible, grand sens de l'autorité naturelle alliant fermeté et souplesse, ouverture d'esprit, capacité à mener des projets, capacité à innover. Vous voyez, donc là, on commence à avoir ce genre de jargon entrepreneurial. Tout ça sous prétexte, bien sûr, d'amener plus de souplesse, d'autonomie, de possibilités pour ces bahuts de résoudre le problème, grosso modo, d'une population très précarisée et qui souffre et qui ne va pas bien. Ce n'était pas suffisant. À côté de, vous savez, le but, c'est de faire de l'autonomie, que chaque établissement devienne une petite entreprise. Donc avec un chef d'établissement qui devient un chef d'entreprise, qui recrute lui-même ses enseignants, qui devienne une petite boîte, qui concurrencie l'autre petite boîte. Hein. En fait, on crée un marché. Hein. La carte scolaire a permis aussi ce phénomène-là, puisque maintenant, les établissements doivent être attractifs. Hein. Donc faire de la publicité. Ces professeurs ambition réussite, par exemple, avaient comme but de mettre en place des projets. Alors ça, le projet, c'est formidable, mais normalement, comme me disent des enseignants, nous, on n'a pas de projet à faire, si ce n'est d'enseigner ma matière. Je veux dire, faire un projet, vous avez des projets Jumbé en mathématiques, par exemple, bon, c'est intéressant, hein, mais en même temps, ça permet, le chef d'établissement qui devient le chef d'entreprise, de mettre ça en avant, de faire la publicité pour tenter de recruter des élèves par rapport à un autre établissement qui lui-même va tenter de faire des publicités. Ça veut dire que, grosso modo, les profs se retrouvent en concurrence à l'intérieur de la salle des profs, et celui qui aura pris son projet sera mis en avant, et celui qui n'aura pas le projet, il sera pas bien vu par ses autres collègues, par le principal, mais aussi par les élèves, parce que les projets consistent à drainer un peu d'argent, donc à pouvoir faire, par exemple, des sorties. Donc les élèves vont commencer à regarder le prof en disant « vous n'avez pas de projet, tandis qu'un tel, il a des projets. Pourquoi ?» Dernier point, à chaque fois, le prétexte est « donner plus de moyens » pour ces collèges. Et à chaque fois, ce sont des faux prétextes d'augmentation de moyens, parce qu'ils n'existent pas, mais en fait, de vraies réalités, de cases d'un statut et d'une marchandisation, à travers cette case de statut, d'une marchandisation de l'enseignement. Il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe dans l'enseignement.
On va s'arrêter là, sinon vous n'allez pas lire Le Monde diplomatique, on va trop en dire, et c'est quand même important que ce journal continue de prospérer. On va remercier Martine Bullard, Alain Grèche, Renaud Lambert, Pierre Touchon, Thomas Deltombe et Gilles Balbastre. Et en vous remerciant tous, on va finir avec Benjamin Collin et Fantasio.
Il n'y a pas quelque chose de plus puissant que la grève là. n'y a pas quelque chose de plus méchant que la grève là. Something more than evil, something more evil than strike. Something more evil, something more evil than strike, strike. Non c'è qualcosa più peggio del sciopero. Non c'è qualcosa più peggio del sciopero. Algo más fuerte y brutal que la huelga. No hay algo más fuerte y brutal que la huelga. Something more. That's right, I got another little baby for me. They don't treat me twice, come on.
Voilà, à la voix et à la basse, c'est Fantasio. Et tout le reste, c'est Benjamin Collin. Ils sont absolument merveilleux. Merci à tous les deux. C'était notre émission mensuelle avec le monde diplomatique, organisée par Antoine Chao et enregistrée à la Java à Paris. Merci à Martine Bullard, Gilles Balbastre, Renaud Lambert, Pierre Souchon et Thomas Deltombe. Quant à Alain Grèche, on le retrouvera bientôt dans la basse J'y suis, car il vient de publier un livre passionnant qui s'intitule « De quoi la Palestine est-elle le nom ?» Et c'est un livre qui rebrousse poil à beaucoup de clichés poilus. On va dire merci aussi à Christine, Mani, Mathilde et Manchour de la Java. Fantasio sera en concert à Lyon le 15 octobre prochain. Ce sera au marché Gare, 34 rue Casimir Perrier, dans le 2e arrondissement de Lyon, à partir de 20h, à ne pas louper. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur la-ba.org. À la technique aujourd'hui, Alain Arnstam, Médophar, Guérid, Koy Nguyen et Franck Adhérère ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot et Marina Touillez. Attend vos messages au répondeur de la basse J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.